Pourquoi le péplum est-il mal aimé de l'histoire du cinéma ? Avec Christophe Gauthier.
Je vais passer la parole à Christophe Gauthier. Je pense que les familiers de la Cinémathèque, pour eux, la présentation ne s'impose pas. Mais quand même, je rappellerai qu'il est conservateur dans cette Cinémathèque. Après, il est conservateur de la Cinémathèque de Toulouse depuis 2006, c'est ça. Après avoir été conservateur du département des arts des spectacles à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF. Et il s'interroge sur, il va nous le dire...
Je vais m'interroger sur les raisons pour lesquelles le péplum est mal aimé de l'histoire du cinéma. C'était en tout cas comme cela que mon intervention avait été baptisée par moi-même. Bon, vous allez voir qu'à la lumière des petites recherches que j'ai faites pour cette communication, le sujet a un petit peu évolué puisqu'il est si mal aimé des historiens du cinéma. Je parle des historiens du cinéma, bien sûr. Donc, et je parle des historiens du cinéma classique jusqu'aux années, on va dire, 4 du cinéma. Je parle des historiens du cinéma, bien sûr. Donc, et je parle des historiens du cinéma classique jusqu'aux années, on va dire, 4 du cinéma. Je parle des historiens du cinéma, bien sûr. Donc, et je parle des historiens du cinéma classique jusqu'aux années, on va dire, 80. Voilà. Donc Laurent, non, rassurez-vous. du cinéma. Je parle des historiens du cinéma, bien sûr. Donc, et je parle des historiens du cinéma classique jusqu'aux années, on va dire, 80. Voilà. Donc Laurent, non, rassurez-vous. donc, ce critique écrit « Si Dante revenait sur Terre, il pourrait assimiler les salles obscures à l'un des 9 cercles de l'enfer. » En certains cas, les producteurs nous soumettent à des tortures raffinées sans que nous ayons même la ressource de hurler. C'est ce que je pensais en subissant, avec quel spasme malaisément surmonté, l'effroyable Ulysse perpétré par Mario Camerini. Et c'est Henri Hagel, dans Cinéma 55, donc, qui pratiquait effectivement la pédagogie du cinéma, mais n'aimait pas nécessairement le péplum, qui parlait en ces termes donc, du Ulysse de Camerini, regrettant donc non seulement l'infidélité de Camerini à l'œuvre d'Homère, ce qui est un des grands reproches de la critique classique, on va dire, à l'encontre des péplums, mais aussi l'insuffisant dynamisme du film, et pour finir, l'échec prévisible d'une telle adaptation. Aux yeux d'Hagel, en effet, seules les qualités propres au dessin animé, aurait permis une transposition qui ne fut pas trahison. L'adaptation du texte antique n'est donc pas condamnée dans l'absolu, mais elle semble vouée à l'échec. Alors, que ce soit au nom de cette infidélité réelle aux textes anciens, insupportable aux critiques lettrées, et j'y reviendrai, qui animent la presse cinématographique de l'époque. La plupart de ces critiques des années 50-60 ont fait, comme on dit, leurs humanités, et sont souvent démérites latinistes, voire hellénistes. Je prendrai le cas de l'un d'entre eux en particulier. Ou pour d'autres raisons sur lesquelles je reviendrai également, le film, à sujet antique ou mythologique, est globalement absent du discours historique sur le cinéma jusque très récemment, chez les historiens, en tout cas, comme je le disais, qu'on pourrait qualifier de classique, ou dans ce qu'on pourrait qualifier aussi, ce que j'ai qualifié par ailleurs dans d'autres travaux, d'histoire cinéphile du cinéma. Pas une ligne, en effet, dans les ouvrages de Jean Mitry sur l'histoire du cinéma. Pas une notice spécifique réservée à un péplum des années 50-60 dans le cinéma italien de Jean Gilli, publié à La Martinière en 1996. Pour ce qui est des films à sujet antique, il ne mentionne que 3 classiques, tous antérieurs à la Seconde Guerre mondiale, Covadis, Cabiria et Scipion l'Africain. Mais aucun des films de la production cinématographique des années 50-60 n'a droit à une notice, et il y a à peu près 7 lignes en fait, de présentation de la production générale de ce genre de film dans l'introduction aux années 50, écrite par Jean Gilli. Rien non plus dans un ouvrage général, Le cinéma, dirigé par Claude Belli et Philippe Carcassonne chez Bordas en 1983. Quant à l'ouvrage de Freddy Buache, Le cinéma italien 1945-1979, publié à l'âge d'homme en 1979, cet ouvrage donc ne mentionne l'abondante production de films mythologiques que pour mémoire, dans un chapitre intitulé, de manière tout à fait révélatrice, « Les lendemains du néoréalisme, 2 points, la chute jusqu'au tournant des années 60. Agrémentant une présentation succincte de la production courante des années 50, deux phrases du type, je cite encore, « Le cinéma italien suit au cours dès 1950, une courbe artistique descendante. » Et si l'ancien directeur de la Cinémathèque suisse consent, ce qui n'est pas le cas, enfin c'est l'ancien directeur avant Dumont qui a fait, comme vous le savez, une encyclopédie tout à fait considérable du péplum. Si l'ancien directeur de la Cinémathèque suisse consent à ce que certains films mythologiques ne soient pas complètement insipides, c'est pour en apprécier les productions les plus parodiques, notamment celle de Sergio Grieco, qui a ensuite travaillé sous le pseudonyme de Terence Hathaway et qui a fait notamment des western spaghetti sous ce nom-là, et donc comparer ses réalisations à certaines réalisations de Frank Tashlin. Alors aujourd'hui, le péplum est considéré comme un genre sinon majeur, du moins considérable dans l'histoire du cinéma. Donc après, évidemment, les nombreux travaux de Claude Aziza et de l'ensemble des participants présents à ce colloque. Ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est que, au fond, dans tous les cas, les historiens du cinéma avant les années 80, encore une fois, le plus souvent eux-mêmes d'anciens critiques, d'ailleurs ces historiens du cinéma, sont absents de cette histoire du genre, ou plutôt ce genre est absent de leur discours historique, pour des raisons qu'il nous reviendra d'éclairer ici, mais qui puissent pour une large part aux origines même d'ailleurs du film historique, et j'y reviendrai pour conclure. Donc à l'exception notable de la première période du film historique italien, le péplum est donc complètement absent des grandes histoires classiques du cinéma. Pourquoi cela pose-t-il un problème à l'historien du cinéma aujourd'hui? On pourrait en effet considérer qu'il ne s'agit après tout que d'un genre mineur, sans implication culturelle ni industrielle. Or, pour ce qui concerne la période 1953, c'est justement le contraire qui se passe. Donc même Freddy Buach, qui réserve quelques phrases, on l'a vu, quelque peu condescendantes à cette production, dans son cinéma italien 1945-1979, rappelle que les plus grands succès des saisons 1954-55 et 57-58 furent respectivement le Ulysse de Camerini, précédemment cité, et pour 57-58, les travaux d'Hercule, déjà cités ce matin, de Piero Franceschi, oui, voilà. Bien plus encore, un article extrêmement documenté de Vittorio Spinazzola, initialement publié dans Film 63 en Italie et repris dans Cinéma 64 en France, fait état de succès public considérable. C'est un article magnifique sur lequel je vais revenir à plusieurs reprises parce qu'en plus, il donne des données chiffrées qui sont extrêmement précieuses. Il dit que donc Barabbas de Richard Fleischer est pour la saison 62-63 le plus gros succès du box-office italien avec près d'un million de lire de recettes. Près d'un million de lire de recettes. Alors, il donne des échelles comparatives et il parle, je crois, de Rocco et ses frères qui avaient rapporté à peu près 150 000 lire de recettes, si vous voulez. Donc, vous voyez la différence, en fait, d'échelle qui est tout à fait considérable. Joseph vendu par ses frères de Luciano Ricci, La guerre de Troie de Giorgio Ferroni ou encore Romulus et Rémus de Sergio Corbucci sont les autres succès qui dépassent les 200 000 lire dans ces années-là. Et comme l'écrit Spinazzola, le groupe de loin le plus consistant des films totalisant plus de 200 000 lire de recettes, donc presque un tiers du total, est fourni par les films les plus discrédités auprès de la critique et du public cultivé, les films historico-mythologiques. C'est le terme qu'il adopte pour donc, ce qu'il est déjà convenu en 64 d'appeler péplum. Alors, la question, donc, elle mérite, dans cet article, d'être posée du point de vue culturel. Alors que le cinéma est sans conteste un art de masse, comment ignorer donc ce qui séduit le plus les masses au profit des films d'auteur défendus par la critique, mais qui n'attirent qu'un public limité? Et c'est donc à la source de cette contradiction, en fait, à cette contradiction-là, que je me suis intéressé en constatant l'absence du péplum dans les ouvrages classiques de l'histoire du cinéma. Alors, notons au passage qu'à quelques différences près, notamment une présence très forte des péplums américains, la situation est dans le succès, dans le box-office en France, la situation est reconduite en des termes quasi identiques hein, en France. En 1953, par exemple, le Covadis de Mervyn LeRoy et la Tunique de Henri Coster se sont hissés au 5e et 12e rang des meilleures entrées de l'année. Et en 58 et 60, on va trouver, donc là on est évidemment davantage sur du cinéma américain, mais c'est pour dire aussi l'extraordinaire succès du genre. Au premier rang des succès populaires, respectivement les 10 commandements pour 58 et Ben-Hur pour 60, suivi d'ailleurs pour l'année 60 par divers films italiens, dont Les Derniers Jours de Pompéi et Salambo. Hein, voilà, donc on a comme ça une idée en fait, du succès en fait, de ce genre. Alors, il se trouve que le dossier de Cinéma 64, dans lequel est publié cet article de Vittorio Spinazzola, qui s'intitule donc le dossier dans son ensemble Le Carnaval des Demi-Dieux, est publié au moment où ce que l'on appelle depuis peu Péplum sort des catacombes, on pourrait dire, dans lesquelles il était jusqu'alors plongé. Et nous verrons donc dans un premier temps comment s'opère cette progressive prise de conscience de la critique cinématographique, ce retournement dialectique donc, qui prend conscience de l'importance de ces films en tentant de les hisser à une qualité d'appréciation qui en fasse des objets dignes de commentaires. Au regard donc de ce focus, on va dire, sur une période assez définie de l'histoire de la critique cinématographique entre 61 et 64, en gros, je reviendrai ensuite sur la considération ou la déconsidération, comme on voudra, dont le film historique a joui ou n'a pas joui, au demeurant, auprès des historiens consacrés du cinéma et d'y dénicher les sources de ce mépris initial, partant du principe que le succès commercial de tel ou tel genre ne me semble pas, comme historien culturel du cinéma, une raison suffisante qui justifie à elle seule cette mise à l'écart. Et les raisons donc, de cette mise à l'écart par les historiens sont à mes yeux plus profondes. Alors, je n'ai pas ici pour ambition de retracer, et je ne le ferai pas, donc, la généalogie du mot péplum, ça a été fait par Claude Aziza, ça a été fait donc, dans divers ouvrages. Je voudrais simplement rappeler que c'est... effectivement, comme le dit d'ailleurs le rappel Claude Aziza dans le Péplum un mauvais genre, et par ailleurs, que c'est autour du ciné-club Nickelodeon, animé par Bernard Martinan, Yves Martin et Bertrand Tavernier, que cet intérêt pour le Péplum prend forme d'une manière telle qu'il transparaît dans les revues de cinéma. Et c'est donc Bertrand Tavernier, dans la revue Cinéma 61, que le futur réalisateur de l'Horloger de Saint-Paul consacre une rubrique aux mythologies italiennes. Donc au printemps, à l'été 1961. Mythologies italiennes, c'est le titre de cette rubrique. Ce qui est intéressant, c'est que dans chacune de ces rubriques, qui est très courte, hein, ça dure sur 2-3 numéros, Tavernier justifie ses choix. Il a besoin de justifier son discours. Et dans le numéro 58 de Cinéma 61, à propos de la fureur d'Hercule, par exemple, il écrit... J'avoue humblement éprouver un faible pour ces productions italiennes à tendance mythologique, dernier bastion de l'irrationnel, puisque la science-fiction ne donne plus naissance qu'à un petit nombre d'œuvres. Justification du choix, mais aussi, comme l'a rappelé fort justement Laurent Aquenin tout à l'heure, rattachement de cette production de films mythologiques à la production de science-fiction. C'est parce que, finalement, on n'a plus de plaisir ou il n'y a plus de production de science-fiction qui soit satisfaisante qu'on se tourne vers le péplum, donc dans un désir et un plaisir cinéphile qui est de la même nature. Dans le numéro 59, encore Tavernier, qui justifie encore le fait d'écrire sur ces films, comme quoi il fallait certainement auprès du comité de rédaction en fait un petit peu militer pour écrire sur ces films auprès du comité de rédaction de cinéma. Bon gré mal gré, écrit Tavernier, l'invasion de nos écrans par les productions italiennes se poursuit à un rythme effréné, et contrairement à l'opinion courante, je trouve cela fort peu regrettable. Car maintenant, à force de pratique, les transalpins sont parvenus à créer un véritable genre dont il faut beaucoup attendre. Et la notion de genre, évidemment, est celle que je voulais mettre en exergue ici, puisque, bien que le terme péplum, et on a vu à quel point cette généalogie, en fait, était complexe à établir, ne soit pas prononcée, en revanche, le genre précède le nom, et finalement, on a là vraiment la caractérisation en fait, de ce type de film comme un genre à part entière. Alors, Tavernier est le plus acharné des promoteurs de ce nouveau genre, qui ouvre, selon lui, à une fantaisie historique rafraîchissante, dont l'humour, voire le burlesque, l'érotisme, l'originalité et les références cinématographiques sont les éléments constitutifs. Alors, la question, d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure d'intertextualité, de référence, en fait, c'est quelque chose qui est très présent dans la critique cinématographique en général dans les années 50 et 60, et qui va être utilisé, on pourrait le dire, comme un outil de légitimation de ce nouveau genre par la critique cinéphile du début des années 60. Par exemple, il y a un passage obligé, quand on parle de Ricardo Freda dans les années 60, c'est de mentionner les références systématiques faites par Freda au film d'Eisenstein, qui est quelque chose que relèvent tous ces critiques et qu'il ne manque jamais de relever, à des fins, bien entendu, en fait, de promotion, on va dire, de cinéastes dont ils rappellent que ce sont eux-mêmes des gens cultivés, voilà, ce qui est une forme, en fait, de support, en fait, de légitimation. Tavernier se réfère également à un autre genre majeur du cinéma mondial, particulièrement pour la critique cinéphile de l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale, qui est devenu un genre majeur, qui est le film noir américain. À propos de La Vallée des Pharaons de Fernando Cherchio, il écrit « Le scénario surprend par un ton intimiste qui écarte curieusement toutes les scènes spectaculaires et qui, par moments, évoque le film noir américain, mais oui, entre parenthèses, ce mais oui est de Tavernier, par la peinture relativement fouillée de certains personnages morbides ou obsédés. » Donc le processus de légitimation est bien en route, qui fonctionne en regard du grand genre noble du cinéma américain de cet après-Deuxième Guerre mondiale et confronte un sous-produit culturel à ce qui est considéré comme le sommet du grand art cinématographique. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la défense et l'illustration de ce que l'on appelle désormais péplum n'est pas à rechercher du côté des fanatiques de l'horreur cinématographique. Jean-Paul Torok, par exemple, assassine Machiste aux enfers dans le numéro 6 de Midi Minuit Fantastique, au nom, je ne pouvais pas m'empêcher de relever ça, au nom d'une politique des horreurs, dit-il, qui doit se substituer à la politique des auteurs. Et donc, pour finir d'ailleurs, au nom de l'indigence des effets fantastiques du film. Cette défense et illustration de ce que l'on appelle donc désormais péplum ne provient pas non plus, dans un tout premier temps, en tout cas les choses vont changer très vite, de l'église auteuriste des cahiers du cinéma. Donc, ainsi Michel Mardor, sur lequel je reviendrai, ne consacre-t-il au départ de critique au géant de Thessalie de Ricardo Freda, puis à Machiste, l'homme le plus fort du monde de Léon de Viola, qu'au nom de la sacro-sainte politique des auteurs qui vise à découvrir l'artiste qui se cache, parfois très profondément, il faut bien le dire, sous le film plus ou moins médiocre qu'il lui est donné de chroniquer. Ainsi, le film de Léon de Viola, que nous avons passé à la Cinémathèque samedi dernier, qui était une copie issue de nos collections, après un très long travail fait tout cet été pour essayer de remettre en état ce film, donc Machiste, l'homme le plus fort du monde, le film de Léon de Viola n'est-il défendu que parce que son auteur, le terme est prononcé par Michel Mardor, y joue habilement de l'ombre et de la lumière, et y déploie ce que Mardor qualifie de fable apollinienne. Alors franchement, enfin, il faudrait avoir ou repasser maintenant ce film pour voir à quel point c'est un film qui peut s'écarter de cette dimension de fable apollinienne, comme ça, poétiquement qualifiée par Michel Mardor. Dans un monde peuplé d'hommes taupes, c'est le péplum sur lequel il est question, dans lequel il est question des hommes taupes menacés par la clarté du jour. Ils meurent, en fait, lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil. Lorsqu'il s'agit de revenir, dans ce même article, au péplum à proprement parler et aux exploits de Machiste, la poésie du film semble se défiler aux yeux de Michel Mardor, qui termine quasiment son article en disant « Bon, donc, enfin, au préalable, il a dit « Oui, donc ce film, c'est vraiment un film d'auteur, on a vraiment une sorte de contraste entre le jour et la lumière, c'est formidable, ce Léon de Viola, franchement, enfin, c'est vraiment un auteur. » Et puis, lorsqu'on passe, je dirais, à la dimension vraiment péplum du film, il écrit « À chaque exploit de Machiste, nous dégringolons au niveau de la baraque foraine et cela ne s'accorde guère, en dépit des traditions culturistes, avec le respect d'Apollon ou de Diane. Puisque l'intrusion d'un protagoniste invincible et éternel semble indispensable dans ce genre de bande, souhaitons aux producteurs d'oublier les gros bras de Machiste et d'Hercule et de redécouvrir Ulysse. » En gros, on veut bien du péplum, mais sans Machiste, en fait. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Ainsi, l'homme fort, ce personnage récurrent du péplum italien des années 50-60, éloigne-t-il le péplum de ce que l'on pourrait appeler l'Olympe ou des mythologies antiques? Et on en revient, d'une manière ou d'une autre, aux reproches d'Agel à l'encontre du Camerini. Un péplum ne saurait trop déchoir au niveau de la baraque foraine, je cite Michel Mardor, et sans qu'il soit même question de fidélité aux textes anciens, les humanités reviennent en force chez un Mardor qui réclame, pour satisfaire totalement son goût de spectateur, quelques héros véritablement antiques et non pas empruntés à une mythologie syncrétique qui est, comme le rappelait Laurent Acknah tout à l'heure, en fait le propre fond des mythologies. C'est pourtant le même Mardor qui, quelques mois plus tôt, avait pris fait et cause pour Le Géant de Thessalie. Il faut dire qu'il s'agissait d'un film de Freda et encore une fois d'un auteur. Donc, dans un magnifique article, militant en diable contre le prétendu respect de l'antique, mais qui ne se départ pas d'un paradoxe certain. Je cite « Que cela plaise ou non, les aèdes modernes s'expriment en scope et en couleur sur la toile blanche. Les pseudo-intellectuels leur reprochent leur mauvais goût des bandes dessinées. La question de la bande dessinée est donc à nouveau en fait réintroduite au sens évidemment de sa dimension populaire, d'art populaire, qu'il convient de rapprocher de ce genre populaire. Je poursuis. Sans céder à la tentation de faire tourner les tables en notre faveur, j'imagine volontiers que cette esthétique barbare est plus proche de la sensibilité des anciens que maintes reconstitutions universitaires. Ce qui embaume l'art des civilisations disparues et refuse le cinéma vivant au nom du classicisme oublie la verve et la fantaisie qui caracolaient en bariolage flamboyant sur l'objet de leurs chères études. Pourquoi donc feignent-ils d'ignorer que le Parthénon était polychrome ? Donc c'est un article magnifique qui se termine comme ça et qui s'intitule « Les couleurs du Parthénon », hein, voilà, à propos du géant de Thessalie. C'est donc au nom d'une fidélité supposée à la sensibilité des anciens qu'il convient de se départir d'une analogie avec ce que l'on pense être véritablement l'Antiquité. Quelles que soient les contradictions qui traversent certains des critiques de l'époque, on ne saurait mieux dire que la promotion de ces mythologies italiennes, pour reprendre le syntagme imaginé par Tavernier, relève de la contre-culture. L'insistance sur la bande dessinée en fait foi, particulièrement au début des années 60, où on parle même parfois de fumetti, en reprenant en fait le terme italien. Hein, en fait. À un moment, la question de la bande dessinée n'avait pas du tout la légitimité culturelle qu'elle a aujourd'hui, puisque quelqu'un comme Pascal Horry, par exemple, chronique régulièrement les bandes dessinées, que ce soit à la radio ou dans la presse écrite, ce qui est un signe de légitimité culturelle. On ne sera donc guère étonné de trouver chez les critiques surréalisants de positif une attention particulière à ce nouveau genre, en particulier chez Gérard Legrand, qui opère, après Jacques Siclier, dans les Cahiers du cinéma, un premier bilan du mouvement. Donc il y a un article un peu rétrospectif de Jacques Siclier dans les Cahiers du cinéma en mai 62, qui s'appelle « L'âge du péplum », et il y a un article de Gérard Legrand en mars 63, dans Positif, qui s'intitule « Le péplum et la cape, précision sur le cinéma italien d'inspiration fantastique ». Donc, alors que Siclier insiste sur trois caractéristiques principales, l'économie particulière de ses films qui recycle à l'envi les décors de Cinecittà, l'influence de la bande dessinée, une fois de plus, présente, l'usage de la mythologie antique au profit de la création d'une mythologie cinématographique nouvelle, Legrand relève trois sous-genres qui lui permettent de décrire les lignes de force de cette tendance du cinéma italien. Et il cite ces trois sous-genres. Le film à prétention historique, dit-il, qui trouve ses racines dans le Scipion l'Africain de Carmine Gallone, et dont, d'après lui, le grand illustrateur est Cotafavi. Le film mythologique dont la série des Hercules est l'emblème. Et enfin, le film fantastique, s'ancrant dans l'Antiquité, mais dans une Antiquité plus ou moins fantasmée ou fantasmatique, Machiste en enfer, Le géant de Thessalie notamment. Ces deux dernières séries, Machiste et Hercule, étant le mieux représentées, d'après lui, par Riccardo Freda. Au moment où le genre donne ses premiers signes d'essoufflement, la production, on l'a rappelé tout à l'heure, sera brutalement suspendue vers 1964 au profit des westerns européens, et d'ailleurs réalisée souvent par les mêmes réalisateurs qui faisaient des péplums, plusieurs constats s'imposent. D'une part, il est bien reconnu, le péplum, comme un genre à part entière, dont l'emprunt au genre majeur du cinéma, film noir, western, j'ai pas développé, mais la question de l'analogie par rapport au western est évidemment présente dès le début des années 60, contribue à la richesse, sinon à la légitimité, dans le champ cinématographique. En second lieu, et ce n'est pas le moindre drôlatique des paradoxes de cette histoire, les chapelles cinéphiles se rejoignent sur les marges et l'on communie, à Positif comme au Cahier du cinéma, moins à cinéma 62, 63, 64, dans le culte commun de Cotafavi et de Freda. Une histoire d'ailleurs des marges, en fait, comme ça, du cinéma, permettrait certainement de tracer bien des ponts entre les fractions de la cinéphilie, et il serait intéressant de voir si cette alliance objective, on pourrait dire, entre les Cahiers et Positifs autour du péplum, donc se retrouve dans d'autres genres considérés comme mineurs, comme ça, de l'histoire du cinéma. Enfin, force est de constater que la rétrospection, plutôt que l'histoire, j'ai cité très rapidement donc, l'article de Gérard Legrand et l'article de Jacques Siclier. La rétrospection s'abrite derrière une entreprise critique qui résonne en termes de genre et d'auteur au détriment de l'appréhension culturelle du phénomène puisque, nous l'avons vu, il s'agit d'un véritable phénomène culturel et économique. Seul Cinéma 64, donc, tente d'en prendre la mesure dans ce dossier, le Carnaval des demi-dieux, en reprenant l'article de Vittorio Spinazzola, que ne désavouerait pas un historien culturaliste des années 2000, recettes, organisation de l'exploitation, répartition générationnelle des cinéastes, histoire et sources culturelles du genre, relations entre les films et l'histoire contemporaine, et pour finir, réflexion sur le silence de la critique, tout contribue dans ce texte à écrire une véritable histoire du cinéma populaire italien sous l'angle du film historique. Alors, donc, nous avons relevé en introduction l'absence ou la quasi-absence du film historique en tant que tel chez les historiens du cinéma. Celle-ci s'inscrit dans une tradition française qui consiste à ne pas aborder l'histoire du cinéma comme une histoire des genres, à la différence, on l'a vu, de ce qui apparaissait donc dans ces premiers articles rétrospectifs de Siclier ou de Legrand. Ça n'est pas du tout la tradition de l'écriture du discours historique sur le cinéma, mais plutôt, en France, comme une histoire des nations cinématographiques ou comme une histoire, j'y ai fait allusion, des auteurs de cinéma. On sait que les années 50, par ailleurs, virent l'explosion du film à sujet mythologique, furent aussi les années les plus ardentes de la politique des auteurs, celles qui virent une nouvelle vague se substituer à l'ancienne, en France dans un premier temps, puis en Italie même. Or, on a vu que cette question de l'auteur était fondamentale pour un Mardor, par exemple, mais aussi pour Gérard Legrand, dont la visée est, je cite, « de grouper quelques observations par sous-genre », fin de citation, pour dégager des lignes de force, indiquer des éléments d'appréciation et faire apparaître les signatures les plus valables. Il se trouve que les textes de Siclier, de Legrand, mais aussi de Jacques Zimmer dans Image et son, un tout petit peu plus tard, en juillet 1966, se présentent comme autant de bilans à visée rétrospective et déjà historienne de ce genre. Le retour que tous font sur Scipion l'Africain en est la preuve, la production muette leur restant alors largement inconnue, puisque la plupart des films du premier âge d'or, ceux des années 10, étaient alors considérés sinon comme perdus, du moins comme invisibles. Il se trouve également que tous ces textes ménagent une part essentielle à la fantaisie dans ces productions populaires, très peu s'intéressent non pas seulement à l'économie de ces films, mais aux attendus de la production, en un mot aux motivations des producteurs et aux raisons de cette efflorescence au mi-temps des années 50. Or, c'est justement ce qui rapproche les films à costume des années 50-60 de ceux des années 10. Les raisons, au fond, en fait, à mon sens, et du point de vue des historiens, de cette efflorescence. Il s'agissait en effet, dans les années 50 comme dans les années 10, de conquérir un nouveau public, de nouveaux marchés, mais avec des visées dans les années 50 et dans les années 10, ou à la fin des années 1900, on pourrait dire plutôt, avec des visées quasiment opposées. Comme le rappelle en effet Vittorio Spinazzola, c'est en vue de surmonter une crise sans précédent du cinéma italien que plusieurs maisons de production se lancèrent dans le financement de films à sujet mythologique à partir des années 1957-1958, pour donc conquérir de nouveaux marchés, ce qui a été, dans un premier temps, on l'a vu, un considérable succès. De même, la fabrication des films historiques à grand spectacle, dans l'Italie fraîchement unifiée des années 1900-1910, eut-elle pour objectif la conquête de nouveaux publics grâce au recours à des formes cinématographiques renouvelées, voire, dans le cas des années 1900, à des formes cinématographiques nouvelles. Au fond, et c'est cela qui est extraordinaire, dès 1911, en première vague des films à costume à sujet antique, l'un des tout premiers historiens du cinéma envisageait la production italienne sous un angle pas si éloigné de celui de Vittorio Spinazzola en 1964. Je cite ce texte de 1911 d'un certain Victorin Jassé, que vous connaissez peut-être pas, qui est le premier historien du cinéma, c'est notre père à tous, qui publie un ensemble d'articles dans Ciné Journal en 1911, qui s'intitule « Études sur la mise en scène en cinématographie » et qui est un texte absolument extraordinaire, en fait, sur l'histoire du cinéma entre 1895 et 1910. C'est un contemporain, Jassé était le principal réalisateur de la société Éclair à Paris et avait d'ailleurs, à titre anecdotique, mis en scène avant de travailler pour le cinéma, des grandes machines historiques à l'hippodrome, notamment de la place de Clichy à Paris, dont un Vercingétorix en 1900, qui est resté dans les mémoires et pour lequel il avait mobilisé à peu près 2000 figurants. Alors Jassé écrit en 1911, l'Italie, donc il parle au passé simple, puisqu'en fait il nous parle en fait d'une période déjà passée, qui est celle des années 1907-1908. L'Italie monopolisa la scène historique. Une école se forma. Elle visa à l'effet d'ensemble plus qu'au détail, chercha à étonner. Elle entassa décor sur décor, mit en mouvement des masses de figuration, réglées avec entrain, souvent avec pittoresque, mais pas toujours avec le souci de l'exactitude du costume et de la reconstitution. Intéressante remarque. Pourtant, presque à ses débuts, l'Italie produisit un chef-d'œuvre qui, 3 ans après, malgré la rapide évolution faite en ce laps de temps, apparaît comme une des meilleures œuvres de la mise en scène au ciné. Je veux parler des derniers jours de Pompéi. Il s'agit de la version de la firme Ambrogio de 1908, la toute première en fait adaptation des derniers jours de Pompéi, qui, dès sa présentation, révolutionna le marché par son sens artistique, sa mise en scène soignée, l'habileté de ses trucs, sa largeur de conception et d'exécution, en même temps que par son exceptionnelle qualité photographique. Alors, ce qui est amusant, c'est que ce texte de Jassé, quand on lit en fait ce qui est écrit dans Mitry ou dans Sadoul sur le péplum des années 1900, en fait, ils reprennent exactement les mêmes termes. Donc, Sadoul écrit, parce que je pense qu'il n'avait pas vu le film, en fait, parce que c'était très difficile d'avoir accès à ces films, alors que, évidemment, Jassé, qui était contemporain de cette époque, avait vu, en fait, ce film. Sadoul écrit, je cite de mémoire, « Oui, Les derniers jours de Pompéi, c'est un film qui a une qualité photographique absolument remarquable, et c'est une mise en scène particulièrement soignée, et un système de trucage qu'on n'avait pas vu auparavant. » En fait, il reprend quasiment les mêmes termes, c'est très, très amusant. Donc, dans l'esprit de Victorin Jassé, l'école italienne, donc, et il mentionne, en fait, donc, on est là à la source, hein, de cette forme d'écriture de l'histoire du cinéma en France, qui travaille en termes, en fait, dans une structuration, en fait, dans un système de pensée qui modèle l'histoire du cinéma par rapport à des écoles nationales. Dans l'esprit de Victorin Jassé, donc, l'école italienne permit la création d'une forme nouvelle, aux origines du développement du cinéma comme art, et cette forme s'appelle le film historique. Il ne s'agissait pas, évidemment, ici de répondre à une crise de production, nous sommes dans les débuts du cinéma, mais à l'absence de solution nationale pour la production cinématographique transalpine. Solution nationale qui permit l'accès à de nouveaux marchés, mais qui, pour les principaux historiens du cinéma, devait conduire à une impasse. Sadoul, je viens d'en parler, parle à propos des films historiques des années 1910. À un moment, il parle d'orgie romaine. Il dit en substance, l'orgie romaine se poursuit avec donc tous ces films, cette accumulation de films historiques. Et avant Sadoul, une vingtaine d'années avant eux, avant Sadoul, Maurice Bardèche et Robert Brasillach, dans la première édition, je me suis appuyé sur la première édition de l'histoire du cinéma de 1935. Fustigèrent bien davantage ce qu'ils appellent le lyrisme de pacotille auquel entraînaient ses cartes postales géantes de Cabiria et son esthétisme grandiloquent. Fin de citation. Maurice Bardèche et Robert Brasillach sont ceux qui ont écrit en fait quasiment l'une des premières histoires de cinéma sous forme de livre, histoire du cinéma très importante puisque c'est une sorte d'aboutissement d'une forme de cinéphilie des années 20 qui se trouve comme ça déployée dans cet ouvrage et importante aussi puisque c'est en réaction de cette histoire du cinéma de Bardèche et Brasillach que Georges Sadoul a décidé de commencer en fait ses propres travaux, puisqu'il était en désaccord total, notamment sur le plan idéologique, avec donc cet ouvrage de Bardèche et Brasillach, Bardèche et Brasillach étant des intellectuels d'extrême droite, comme vous le savez peut-être, alors que Sadoul était un intellectuel de gauche et déjà dans les années 30 membre du Parti communiste français. C'est une incise. Donc pour Bardèche et Brasillach, il s'agit donc là, le film historique italien des années 1900-1910, d'un genre dont la grandiloquence même devait le mener à sa perte. Les spectacles offerts par ces films, en effet, disent-ils, étaient pourtant assez beaux, citation, des chanteurs obèses drapés dans leur toge, d'abondantes matrones saluant à la romaine ou secouant des rameaux d'olivier, de courts légionnaires trottant à petits pas, des foules baissant ou levant le pouce avec d'imaginaires cris de mort, constituaient le fond indispensable de ces films à grand orchestre. Ce n'était qu'orgie romaine, pluie de fleurs, jeu de cirque, et l'on finissait en beauté sur de magnifiques incendies de cités en carton qu'un empereur monoclé et ventru considérait avec une béatitude de prélat. Bon, c'est le style un peu polémiste aussi qui fait parfois un peu froid dans le dos d'ailleurs, de Bardèche et Brasillach, mais c'est évidemment un ouvrage extrêmement bien écrit. Alors, on le voit, les passages obligés du péplum moderne sont déjà bien identifiés ici, chez Bardèche et Brasillach. Orgie, jeu de cirque, incendie, érotisme, évidemment, qui ne convient plus à l'œil de spectateur des années 30, mais qui était un érotisme, je pense, bien réel pour l'œil des années 10. Ces passages obligés sont identifiés sous des atours décrits comme grotesques et qui en disent long sur l'estime que Bardèche et Brasillach ont pour ce genre inventé par les Italiens. En réalité, pour ces deux auteurs, fort imprégnés en cela de la cinéphilie des années 20, c'est tout ce style de cinéma qui était condamnable parce que s'éloignant d'une tentative d'autonomisation de l'art cinématographique au profit d'une légitimation s'inscrivant dans la droite lignée du théâtre. Cet alignement du cinéma sur le théâtre ou sur l'opéra, d'ailleurs, est perçu comme un contresens historique par Bardèche et Brasillach, comme par la plupart des cinéphiles, des critiques cinéphiles, qui deviendront souvent historiens du cinéma des années 20. Et cet alignement du cinéma sur le théâtre ou l'opéra éloignera durablement les historiens du cinéma de ce type de production cinématographique. On en trouve encore les traces chez Loduca. Loduca, c'est quelqu'un qui a écrit une histoire du cinéma dans la collection Que sais-je, et pendant des années, pendant 30 ans en fait, ce texte de Loduca chez Que sais-je a été une sorte de, on pourrait dire en fait, de base, de petit livre en fait, de chevet en fait, pour chacun qui souhaitait apprendre quelques linéaments, on va dire, de l'histoire du cinéma. Première édition 1941. Et donc Loduca écrit, alors le texte est reproduit exactement de la même manière ensuite dans toutes les rééditions en fait de ce petit livre de 128 pages dans la collection Que sais-je. Il écrit à propos donc de cette école historique des années 10. Deux écoles se formèrent, celle qui cultivait les fleurs de serre que sont les femmes fatales, et celle qui cultivait les souvenirs archéologiques avec l'appui de fort grâce vestale, de César frisé et de gladiateurs en chaussettes. Fin de la citation. Donc divisme, l'allusion aux femmes fatales, le cinéma des divas des années 10 et 20, et goût de l'antique sont donc également responsables d'une chute de qualité du film italien et par conséquent du cinéma tout court. Contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, les sources du mépris des historiens du cinéma, et j'ajouterai des historiens cinéphiles, ne reposent donc pas exclusivement sur la dimension populaire du film historique, mais pour ce qui concerne la période de ce qu'on pourrait appeler un petit peu anachroniquement d'ailleurs, le premier âge d'or au fond en fait du genre, ce mépris donc repose sur la prétention artistique qui anime ce film historique. Le genre du film historique, identifié comme tel dès 1911, nous l'avons vu avec ce texte de Victorin Jassé, est initialement également identifié à une stérilisation de l'art cinématographique. À cette marque infamante originelle s'ajoutera plus tard, mais plus tard seulement, la dimension populaire du genre qui, si l'on en croit Spinazzola, devient méprisable parce que populaire, à plus forte raison si l'on considère, en regard de cette production, bien sûr, et je reviens ici aux années 50, la richesse du cinéma italien des années 50-60. Donc j'ai fait un petit flashback, je reviens en fait à mes années 50-60. Spinazzola écrit quelque chose de très intéressant parmi tant d'autres dans son article. Il écrit « Cet important filon de production, les péplums, auxquels sont intéressés des millions de spectateurs, n'a jusqu'ici sollicité en Italie aucune réflexion critique.